9h-11h,
Wendy Bouchard.
Bonjour à vous tous, soyez les bienvenus sur Europe 1. Rebonjour Julie.
Bonjour Wendy.
Après ce joli intermède Canteloup, on prolonge cette matinale spéciale autour du grand débat après les propos d'Edouard Philippe, qui était l'invité de la matinale pendant une heure et demie. Jour de clôture des contributions du grand débat, nous sommes le vendredi 15 mars et vendredi de mobilisation des jeunes dans les lycées de France. Vent debout pour sauver la planète, investi dans l'action climatique. Gabriel Attal, secrétaire d'État à la jeunesse, vient échanger avec vous sur ce thème lycéens, étudiants. Si vous êtes à l'écoute, comment souhaitez-vous vous mobiliser pour faire entendre raison à nos gouvernants sur la manière de sauver la planète. Vous nous rejoignez dès maintenant. Le standard est ouvert, Julie.
C'est le 39-21. Vous composez le numéro et on vous rappelle.
Et puis à partir de 10h, à l'occasion du Salon du Tourisme à Paris, on vous dit ce que vos voyages racontent de vous avec les classiques clubs de vacances et destinations d'été, la randonnée qui marche très bien, les blogueurs qui servent aussi de plus en plus de guides aux voyageurs. On les appelle influenceurs et on vous donnera les grandes tendances du moment entre économie, sociologie et plaisir, bien sûr. Voilà le sommaire jusqu'à 11h.
9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Avec partout dans le monde, les lycéens en grève scolaire pour le climat dans plus de 100 pays, dans plus de 1600 villes de la planète, des étudiants, des lycéens, parfois même des collégiens vont sécher les cours aujourd'hui pour alerter les dirigeants sur l'urgence climatique. Face à l'inertie des politiques, ils veulent dire qu'ils ne seront pas, qu'ils ne souhaitent pas être la génération de l'échec. Bonjour Gabriel Attal.
Bonjour.
C'est une cause noble, digne et citoyenne s'il en est. Qu'allez-vous en faire, vous qui faites partie de cette jeunesse, justement ?
Ouais, vous l'avez dit, moi je fais partie de cette jeunesse et je me réjouis et je suis fier que la jeunesse française se mobilise comme des jeunesses du monde entier aujourd'hui pour envoyer un message. Vous avez parlé d'inertie des gouvernants. Moi je ne crois pas qu'il y ait d'inertie en France. Je pense qu'on agit, on y reviendra. Il y a des réformes très importantes qui ont été prises pour cette question de l'environnement, de la protection de la planète. On peut toujours souhaiter aller plus loin, plus vite. Ça a été mon cas, ça peut être mon cas sur un certain nombre de points, mais on avance. En revanche, on voit que dans le monde, il y a des pays qui reculent. C'est-à-dire que ce n'est même pas qu'ils sont immobiles, c'est qu'ils reculent. Les États-Unis, le Brésil, la Chine ont des décisions, prennent des décisions, se lancent dans des projets qui sont désastreux pour l'environnement. Et donc, moi, avoir aujourd'hui la jeunesse française très mobilisée pour envoyer un message aussi au monde et aussi à ces pays pour dire qu'on a une génération qui se lève et qui n'a pas envie de laisser passer parce que c'est quand même son avenir en premier qui est mis en cause.
Mais attention, cette jeunesse, elle dit aussi, gouvernants français, bougez-vous, parce
bien
que
sûr.
L'inaction politique, la France a été visée pour plainte pour inaction politique par 4 ONG, vous êtes bien placé pour le savoir, notamment Greenpeace qui sera représenté tout à l'heure, notamment la fondation Hulot. C'est bien pour ça que nous devons d'abord faire notre propre part et nous
bien
remettre
sûr.
En cause aussi en France.
Bien sûr, c'est pour ça qu'on doit aussi agir, qu'on doit emmener un mouvement aussi en Europe, qu'on doit montrer l'exemple, qu'on doit montrer qu'il y a des choses qui sont possibles, qu'on les lance en France, mais on a toujours besoin de l'Europe et du monde pour avancer, surtout pour être efficace. Et je pense que c'est ça le message qui est important.
Vous allez pouvoir échanger dans un instant avec une lycéenne de Bourg-en-Bresse, Zofia, qui sera dans les manifestations tout à l'heure, dans les défilés pacifiques, mais pour cette cause. Et j'accueille en studio une des signataires, notamment dans le magazine Le 1, de cette tribune « Peuvent-ils sauver la Terre ?» Vous vous appelez Anaïs Lann, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes étudiante en master de droit de l'environnement, c'est-à-dire que le sujet vous intéresse, et lauréate du prix du public du concours Éloquence sur ces questions environnementales. D'abord, en réaction à ce que disait Gabriel Attal, vous, pourquoi manifesterez-vous aujourd'hui? Pourquoi serez-vous à Paris, place du Panthéon, avec tous ces jeunes réunis?
Je vais manifester aujourd'hui, comme aux précédentes marches d'ailleurs, car le climat aujourd'hui, il est nécessaire de s'engager pour. Ce soulèvement doit être intergénérationnel et au-delà d'un engagement, il doit y avoir des actions beaucoup plus radicales et marquées. Il ne faut pas avoir peur de faire figure de leader dans ce domaine et je pense que la France a un rôle à prendre.
Vous avez le sentiment qu'on ne nous dit pas tout en matière de climat, que la transparence n'est pas assez faite, même si l'on sait par exemple qu'en 2017, les émissions de gaz à effet de serre en France ont augmenté, qu'on fait partie de ces mauvais élèves, en tout cas de circonstances.
Je ne sais pas si on ne nous dit pas tout, mais je pense qu'on n'est pas assez actif. Par exemple, il suffit de regarder la fiscalité écologique. Aujourd'hui, c'est une aberration. Il faut agir beaucoup plus concrètement. Il faut aller au plus près des administrations, des collectivités. Il faut agir vraiment maintenant.
Sauf qu'on a vu combien la taxe carbone soulevait des mois à l'origine de la crise des gilets jaunes, Gabriel Attal. Il y a aussi un problème de concordance de temps entre cette nécessité d'agir au niveau écologique et le temps politique.
Oui, en fait, moi je pense
beaucoup
que
trop long.
C'est pour ça que l'enjeu européen est particulièrement important. Parce que moi je ne crois pas qu'on puisse dire que la majorité des Français ou même que la majorité des gilets jaunes se fiche de l'environnement et considère que finalement, c'est pas grave s'il y a des émissions de gaz à effet de serre et finalement, on n'a pas besoin de changer nos habitudes. Moi, ce que j'ai ressenti, y compris dans des discussions que j'ai pu avoir avec des personnes qui étaient mobilisées, c'est le sentiment que on leur demandait à eux, on demandait aux Français des efforts pour changer de modèle à travers l'augmentation de la taxe carbone, mais que finalement, la France, c'était une goutte d'eau, entre guillemets, par rapport à l'Europe, au monde, dans les émissions de gaz à effet de serre.
C'est le discours qu'on entend souvent. Nous, on est de bons élèves, on peut pas faire plus.
Que pour moi, l'échelle européenne, elle est très importante, parce que c'est à la fois une question d'efficacité. On sait que l'Europe, c'est plus vaste que la France et que c'est beaucoup plus d'émissions de gaz à effet de serre que la seule France. Mais c'est aussi l'échelle de l'acceptabilité pour les Français. Parce que si on engage un mouvement européen, si on a l'ensemble des pays européens qui s'engagent, pour les Français, c'est plus acceptable de s'engager et de faire des efforts eux aussi, parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas les seuls à les faire. Et c'est un peu le sens de la mobilisation qu'a engagé Emmanuel Macron à travers sa tribune. Il avait déjà commencé avant. C'est le sens aussi de ce qu'il essaye d'engager au niveau mondial avec le One Planet Summit. Il était en Afrique hier pour ça. Il sera à l'ONU en septembre pour poursuivre. Donc pour moi, c'est plutôt comme ça que je vois les choses sur la taxe carbone.
Et vous allez essayer de répondre à des images. Il y a notamment cette image qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux. Nous sommes dans une forêt d'Asie. On voit un orang-outan se battre avec une espèce d'une énorme machine qui vient déforester son terrain de vie, son terrain de jeu. C'est une image bouleversante comme celle du fameux ours polaire qui dérive amaigri sur sa banquise. Tout ça marque et tout ça marque aussi les plus jeunes. Et c'est sain d'aller dans cette direction avec vous. On en discute. Vous entendrez Sovia dans un instant. Le petit Charlie aussi qui avait interpellé Emmanuel Macron il y a quelques semaines lors d'un grand débat. À tout de suite.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Cette journée de vendredi est placée sous le signe du climat et de l'environnement chez les jeunes, avec l'organisation de débats et un appel à manifester dans toute la France. Wendy.
Et nous en parlons avec des lycéens, des étudiants qui manifestent aujourd'hui. Et si le climat, Gabriel Attal, vous qui êtes notre invité jusqu'à 10h, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, et si le climat, si les questions d'environnement, si la sauvegarde de la faune, de la flore, étaient les sujets sur lesquels la jeunesse, se réinvestissait et permettait de revenir dans le jeu politique, cela vous satisferait au plus haut point?
Oui, en tout cas, on entend souvent dire que les jeunes finalement, ne sont pas intéressés par la politique, qui sont assez isolés, individualistes, etc. Et moi, je trouve que des mobilisations comme celle-là, elles démontrent tout l'inverse. Ils ne sont peut-être pas intéressés par la politique au sens politicien du terme, mais ils sont très investis sur des causes et peut-être plus qu'avant. Et c'est pour ça que moi, je me réjouis aussi. Ça montre qu'on a une jeunesse qui est engagée, qui défend des causes et c'est toujours positif.
Mais qu'allez-vous en faire? C'est la question qu'on va vous poser après l'échange avec Sophia. Sophia Chevillade, vous êtes lycéenne en terminale scientifique à Bourg-en-Bresse, au lycée Edgar Quinet. Bonjour Sophia.
Bonjour.
Et vous répondez, vous aussi, à cette mobilisation qu'on a vu grandir semaine après semaine. Qu'est-ce qui vous a convaincu, vous, de participer à cette marche, justement?
Ce qui m'a convaincu, c'est tout d'abord, j'ai vu que tout le monde en parlait autour de moi, qu'on était très sensible à cette question écologique, qu'on voyait les dérèglements climatiques, que ce soit à la télé ou au quotidien, et que la question environnementale était devenue un sujet de conversation primordial au quotidien. Donc on a décidé de mobiliser la ville de Bourg-en-Bresse, les jeunes de Bourg-en-Bresse. Et aujourd'hui, on est déjà rassemblés et on va débuter la marche à 10h.
Avec certains slogans qu'on a vus fort de sens dans les cortèges. Hein. En 2050, vous serez mort, pas nous, par exemple. Voilà ce qu'on peut lire. C'est dur parce que vous engagez aussi à la réflexion des gouvernants d'aujourd'hui pour qu'ils vous laissent un monde, laissent un monde durable. Et au quotidien, vous, comment vous tentez d'être une bonne citoyenne, respectueuse de cet environnement?
Eh bien, tout d'abord, il faut apprendre à le connaître, à le respecter, à l'apprécier et comprendre que, véritablement, sans nature, eh bien, nous n'avons pas de futur. En fait, l'homme a besoin de la nature et pas l'inverse. Et donc, apprendre à le connaître, s'informer sur les dérèglements climatiques et puis connaître aussi les alternatives du quotidien, les solutions pour réduire notre empreinte carbone, et bien c'est ce que chacun peut faire et c'est assez accessible.
Oui, et c'est ce qu'on voit souvent d'ailleurs dans cette jeunesse, dès l'adolescence, avec une prise de conscience. Anaïs, vous qui êtes étudiante en master de droit de l'environnement, je donne aussi la parole à Anaïs en studio. On a des jeunes, mais allez-y Sophia, vous pourrez échanger. Hein. On a des jeunes qui sont très sensibles à la cause alimentaire, animal, qui s'engage pour les associations de plus en plus, certains qui deviennent végétariens. Enfin, vraiment, on a une prise de conscience sur tous ces niveaux qui concernent le rapport à la planète.
Je pense que depuis les années 70, il y a eu un éveil à la conscience environnementale et que depuis les années 2000, la jeunesse s'est emparée de ces thématiques car elle a été éduquée à toutes ces problématiques environnementales, au respect de l'environnement. En tout cas, moi, j'ai grandi dans cet écosystème-là.
Oui, mais vous ne trouvez pas que jusqu'à présent, c'était dans les mains des politiques et que justement, la société civile n'avait pas vraiment sa part dans l'histoire ?
Je pense qu'il y a eu peut-être, pour ne pas dire le mot, un certain ras-le-bol qui a pu être exprimé notamment par les gilets jaunes et ça a un petit peu fait boule de neige, donc d'autres mouvements ont pris la suite et n'ont pas peur d'exprimer leurs opinions et de les manifester surtout.
Oui, en sortant d'une écologie punitive, ça c'est un terme qu'avait pu employer Ségolène Royal à l'époque, mais d'une écologie en tout cas très politique qui n'était pas dans notre quotidien, Gabriel Attal.
Mais oui, et moi je m'en réjouis parce qu'on a besoin de la société civile. On en a besoin pour interpeller les gouvernements mondiaux, même d'ailleurs pour interpeller les dirigeants en France, on en a besoin. On en a besoin aussi pour changer de modèle, parce qu'on sait que cette question du changement de modèle, de la transition écologique, elle devra beaucoup pour être un succès aux industries, aux entreprises. Mmh. Et pour moi, il n'y a pas plus efficace que les consommateurs, que les citoyens, pour faire changer de modèle les entreprises.
Mais oui,
évidemment,
mais oui.
Les pouvoirs
les
publics
pétitions,
le font,
oui.
Les pouvoirs publics le font, on prend des lois, on met des normes, mais il n'y a pas plus efficace qu'un consommateur qui décide d'orienter son achat en direction de marques, en direction d'entreprises qui sont respectueuses de l'environnement.
Ça veut dire que ce sont
une politique de responsabilité sociale et environnementale qui fonctionne.
Ça veut dire que ce sont les lobbies de demain, pardon, les citoyens, la société civile. Nous avons reçu avec Julie, il y a quelques semaines, un député européen, Younous Omarji, qui a fait voter la fin de la pêche électrique, notamment en Europe, et qui disait sans les citoyens, sans l'association Bloom, qui a porté justement une mobilisation magnifique, on n'aurait pas pu faire pencher le Parlement européen. C'est ça la réalité aujourd'hui.
Bien sûr.
C'est que la société civile, c'est elle qui décide aussi de l'aiguillage des politiques.
Bien sûr, on a besoin d'elle pour aiguiller les politiques. Mmh. C'est pour ça que moi, je me réjouis des mobilisations. On a besoin d'elle aussi pour trouver des solutions. Mmh. Et le grand débat national a, dans ces quatre thématiques, une thématique sur la transition écologique,
oui.
Son impact, comment est-ce qu'on arrive à changer nos habitudes. Et là aussi, on a besoin de tous les Français, parce que les Françaises sont eux qui, au quotidien, vivent ce changement de modèle. Et donc, pour proposer des solutions, pour voir comment est-ce qu'on arrive à porter une trajectoire qui est soutenable, on a besoin de les entendre. Et moi qui ai beaucoup participé à des débats avec des jeunes dans le cadre de ce grand débat, j'ai mesuré que la question de l'écologie, de l'environnement était la première thématique de mobilisation des jeunes dans ce grand débat, avec des choses très concrètes qui étaient proposées.
Et ben on va y venir à ce qu'ils proposent et à ce que vous proposez aussi. Et vous pouvez, Zofia, dans un instant, je vous redonne la parole, échanger aussi avec le secrétaire d'État qui sera tout à l'heure dans les cortèges au Panthéon à Paris, alors que vous défilez du côté de Bourg-en-Bresse. Et nous serons dans un instant avec Louis et avec Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace. À tout de suite sur Europe 1 pour faire le tour de la question sur cette grève de l'école pour le climat.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
C'est la jeunesse du monde entier qui se mobilise aujourd'hui pour réclamer aux adultes, à ceux qui nous gouvernent, des actions fortes pour le climat. On en parle jusqu'à 10h avec vous, Wendy Bouchard.
Avec des images fortes attendues aujourd'hui dans plus de 100 pays, en effet, 1600 villes, des étudiants, des lycéens de tous ces pays, à l'image de celle qui a lancé ce mouvement d'une grève mondiale pour le climat. Ils sont mobilisés. Elle s'appelle Greta, elle est militante écologique suédoise de 16 ans, elle est surtout lycéenne. Et depuis l'été dernier, elle tient devant le Parlement de Stockholm, chaque vendredi, ce panneau « Grève de l'école pour le climat ». Elle a réussi à venir exprimer ses mots il y a quelques semaines en Pologne pour la COP24. Écoutez Greta Thunberg.
Tant que vous ne vous concentrerez pas sur ce qui doit être fait, plutôt que sur ce qui est politiquement possible de faire, il n'y a pas d'espoir. Nous ne pouvons pas soigner une crise si nous ne la traitons pas comme une crise.
Oui, ce sont des mots forts qui vous ont fait réagir. Par exemple, vous, Anaïs Lannes, étudiante en master de droit de l'environnement. Ce petit bout de femme est devenue une égérie. Elle a 16 ans, mais elle a déjà une conscience si incroyable de l'avenir qui nous réunira ou pas.
Oui, je pense qu'elle va nous réunir. Par exemple, hier, elle a été proposée, il me semble, pour l'attribution du prix Nobel,
de la paix. Oui, par trois élus suédois.
C'est absolument incroyable. Et je pense que d'habitude, ce prix, c'est l'aboutissement d'une vie. Oui. Aujourd'hui, ça montre une fracture directe avec ce qu'il se fait habituellement. Et je pense que ce mouvement va perdurer et va rallier progressivement les politiques, les industriels, la société civile, parce que cette transition, elle doit nécessairement être réalisée en symbiose avec toute l'économie qui existe. Sans cela, ce ne sera pas efficace.
Une génération de Greta en France, vous l'attendez aussi, Gabriel Attal, et vous l'appelez de vos voeux dans une sorte de mouvement pacifique qui réunirait justement toutes les jeunesses du monde, comme dans les années 70, contre la guerre.
Moi, encore une fois, je pense qu'on a besoin de la jeunesse sur tous les sujets, mais sur ce sujet-là en particulier, parce que ce qu'on constate, c'est que les jeunes ont déjà changé de modèle dans leur tête. Et que finalement, les tiraillements qu'on a pu voir dans l'actualité ou qu'on peut voir au quotidien entre un modèle et l'autre, son l'impact d'un changement de modèle sur sa vie quotidienne, en fait, les jeunes l'ont déjà intégré, eux, dans leur esprit, parce qu'ils savent que c'est une nécessité et qu'ils le choisissent par ailleurs. Et c'est important d'avoir des leaders d'opinion qui arrivent à faire émerger des mouvements, à faire émerger des idées, et la jeune Greta en a fait partie. Moi, je veux rappeler que le premier chef d'État dans le monde à avoir reçu Greta, c'est Emmanuel Macron, très tôt, qui a considéré qu'il fallait mettre en avant, mettre en lumière aussi cet engagement d'une jeune fille de 16 ans quand même, c'est impressionnant quand on sait qu'elle a 16 ans, qu'il fallait mettre en lumière cet engagement, parce que c'est aussi un exemple pour beaucoup de jeunes. Il a réuni à l'Élysée la jeune Greta, des jeunes européens de toute l'Europe, pour parler de ces questions d'environnement.
Qu'est-ce qu'il en a retiré ? Alors, est-ce qu'il en a retiré l'idée, par exemple, de faire un débat sur le climat, comme l'a proposé ensuite Jean-Michel Blanquer, aujourd'hui, entre 16 et 18 heures, dans les lycées ? Je ne sais pas si vous y participerez, du côté de Bourg-en-Bresse, Zovia Chevillotte, vous qui serez, qui êtes déjà dans les rues, d'ailleurs, du côté de Lyon.
Oui, la marche va bientôt commencer, dans une trentaine de minutes. Je ne pense pas y participer, non.
Pourquoi ?
Tout simplement parce que on a déjà organisé un peu notre après-midi de notre côté. Sinon, je trouve que c'est une bonne initiative, mais il est vrai que nous demandons réellement une véritable éducation à l'écologie.
Ben justement, est-ce que ça passe pas par là, justement, avoir pendant deux heures comme ça une réflexion ensemble avec fond, parce que vous ne connaissez peut-être pas le fond du dossier, tous les dossiers en tout cas.
Bah, beaucoup de personnes autour de moi trouvaient que c'était assez improvisé, mais pourquoi pas que ce soit le début de quelque chose. Voilà, que ça c'est une bonne initiative. Oui, mais si il faudrait que le débat ne soit pas stérile.
Si je peux me permettre, Sophia, c'est peut-être le moment pour changer les choses, d'agir concrètement, de manifester bien sûr, mais de participer à cette réunion, parce que c'est quand même une initiative du gouvernement qui n'est pas à négliger. Et en fait, ça va permettre de faire en sorte que d'agir et enfin d'être en masse à ce genre d'événement, ça va permettre qu'ensuite il y ait une prise en compte par le gouvernement de tout ce qui va ressortir de ces réunions. Et pour moi, c'est essentiel que vous y alliez et que vous mobilisiez les autres à y participer, parce il faut vraiment agir, et sans l'aide du gouvernement, sans l'aide des autres acteurs de la vie politique, notre mouvement sera bien peu de choses.
D'accord. Bah, je sais qu'il y a des classes qui sont déjà mobilisées pour y aller. Par rapport à mon retour aussi chez moi, ce ne sera pas possible. Mais voilà, si vraiment ça peut mener à une bonne conclusion, à des prises de conscience de certains élèves, eh bien tant mieux. Après, il faudrait que ça persiste dans le temps et que ce ne soit pas juste une intervention ponctuelle, qu'il y en ait d'autres.
Mais en effet, Gabriel Attal, est-ce que c'est avant une petite pause ce qui est prévu aussi ? Parce que là, ça tombe. Évidemment, certains l'ont interprété comme on préfère que les lycéens restent à l'école et discutent ensemble plutôt qu'ils défilent dans les rues. C'est le même jour que cette marche de la grève de l'école contre le climat. Mais peut-être, est-ce que cela peut être une heure ou deux heures chaque vendredi pour éclairer sur ces thématiques à l'école ?
Moi, déjà, ce que je veux dire, c'est que c'est totalement inédit comme initiative et on ne le dit pas suffisamment.
Oui.
Aujourd'hui, dans les 4200 lycées de France, on va permettre à tous les jeunes lycéens de s'exprimer, de faire des propositions sur cette question de l'environnement. Et c'est très important, parce qu'on entend souvent, il y a quelque chose de culturel dans notre pays, on dit les jeunes, vous êtes l'avenir. Et ça part toujours d'un très bon sentiment. C'est très positif de dire ça. Mais culturellement, ça instaure l'idée que les jeunes sont l'avenir et que donc il faut qu'ils attendent un peu avant de contribuer, de faire des propositions et de prendre en main les choses. Et moi,
vous
je me bats vraiment.
Mais on s'en occupe, quoi.
Voilà, c'est ça. Et pourtant, c'est leur avenir et c'est notre avenir. Et moi, je me bats pour qu'on dise que les jeunes, c'est le présent et que dès aujourd'hui, ils ont des choses à dire et des propositions à faire. Donc, dans ces débats, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir à la fois un débat et des propositions sur la lutte contre le réchauffement climatique, la protection de l'environnement au niveau mondial. Et puis, il va y avoir aussi la possibilité de faire des propositions très concrètes et très locales à l'échelle de chaque établissement.
Mais là, vous parlez d'aujourd'hui ?
Je parle d'aujourd'hui.
Parce que ça a été improvisé lundi par le ministre de l'Éducation quand
ça a
même.
Été annoncé, mais c'était annoncé. Préparé, c'était préparé D'accord. depuis un petit moment. Oui. Mais à l'échelle de chaque établissement, comment est-ce que les jeunes peuvent faire des propositions pour dire, par exemple, dans notre lycée, il n'y a pas de garage à vélo. Comment est-ce qu'on peut dire il faut prendre le vélo pour se déplacer ? Il n'y a pas de garage à vélo. Il n'y a pas de tri des déchets.
On est d'accord qu'il ne suffira pas d'une journée aujourd'hui pour régler ces questions.
On est d'accord. D'ailleurs, ça va se reproduire. Avec Jean-Michel Blanquer, on recevra le conseil de la vie lycéenne. Donc, c'est les représentants nationaux des lycéens le 5 avril pour avoir un retour justement sur ce qui se sera dit dans ces débats.
D'accord.
Et évidemment qu'il faut poursuivre et trouver des cadres d'expression pour les lycéens sur ces sujets-là plus fréquents.
Et pour sauver la Terre, comme vous le souhaitez vous aussi de notre côté, Anaïs Lannes, faire sa cause chacun d'entre nous, plaidoyer pour la planète que vous signez dans le journal Le 1 cette semaine. On va se retrouver avec vous et vos propos. Merci à Zofia et bon cortège à Bourg-en-Bresse. Louis sera avec nous dans un instant, ainsi que Jean-François Julliard de Greenpeace. A tout de suite sur Europe 1. Je donnerai également la parole à Jean-Paul au 3921.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Nous vous avons posé une question sur Facebook. Soutenez-vous la grève de l'école pour le climat ? Non à 51%, donc c'est presque 50-50 quand même. Hein. Quelques exemples de commentaires. Bravo à nos jeunes générations qui se bougent, ils vont nous épater, signé Alain. Un message de Joël. Pourquoi ne pas manifester le dimanche ? L'écologie, c'est important, mais les cours le sont également. On peut peut-être concilier les deux. Tiens, une manif le dimanche, peut-être. Mmh. Enfin bon, c'est peut-être plus fort de manifester un jour d'école, hein, quand même. Ça a plus d'impact.
Manifestement, oui.
Ni pour, ni contre, écrit Magali. Je pense qu'il serait mieux d'enseigner aux enfants des principes écologiques plutôt que de faire une grève pour ça. Et je termine avec ce mot de Fabien. Au lieu de manifester contre la pollution pour sauver la planète, qu'ils commencent par la respecter en arrêtant de jeter leur plastique et canettes de soda par terre. Allez faire un tour sur les parkings des collèges et des lycées. Ce sont de véritables décharges à ciel ouvert.
Ah, c'est pas tout à fait faux. Anaïs, vous qui êtes étudiante en master de droit de l'environnement, on a une très forte conscience, c'est une petite partie des jeunes. Et puis, de l'autre côté, on a comme partout un certain relâchement et en tout cas un désintérêt face aux conséquences de ces petits actes du quotidien d'incivilité. Hein. Mmh. Et vous travaillez aussi sur la question. C'est un domaine qui vous intéresse.
Oui, bien sûr. J'ai pas envie qu'il y ait de stigmatisation des jeunes. En fait, je pense qu'il faut rester positif et surtout, il faut continuer à inculquer des manières positives d'avancer et surtout en accord avec les principes écologiques. Par exemple, les jeunes aujourd'hui, dans ma classe, par exemple en master, tout le monde possède une gourde. Personne n'utilise des gobelets en plastique. Je pense que c'est des actions qui sont petites, mais aujourd'hui, quand on connaît la quantité de gobelets en plastique utilisés chaque jour, je pense qu'il faut arrêter. Aujourd'hui, 700 000 kilos de plastique sont déversés dans les océans chaque seconde. Il faut arrêter, il faut agir vraiment, et chacun à son échelle. Ce n'est pas uniquement les jeunes, ce n'est pas uniquement les autres, c'est chacun, c'est tout le monde. Il faut vraiment s'interroger dans son quotidien, se dire voilà, qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui pollue, en fait.
Et je peux vous dire que déjà à la crèche, ils font le tri sélectif. Et ils apprennent aux enfants à mettre les plastiques, les cartons dans des poubelles différentes de ceux des déchets. C'est aussi ça l'apprentissage, vous qui êtes associé à la réflexion du gouvernement, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, Gabriel Attal. Ça commence dès tout petit.
Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que depuis plusieurs années, c'est les enfants qui forment les parents. Et que ce qu'ils apprennent à l'école, finalement.
Et qu'on se sent très coupable devant le regard d'un enfant.
Ils rentrent à la maison et finalement, ils interpellent leurs parents en leur disant : mais à l'école, je trie, pourquoi est-ce que chez nous, on ne trie pas ? Oui. Et qu'il y a des changements de comportement qui se font aussi grâce aux jeunes qui sont formés à l'école, à la crèche.
Sauf qu'il faut que ça aille plus vite, plus loin, plus fort, comme dit d'ailleurs Emmanuel Macron.
Absolument, il faut que ça aille plus vite, plus loin, plus fort. On le souhaite tous, le président de la République le souhaite. Je l'ai dit, on a engagé beaucoup de réformes, on a engagé beaucoup de grands chantiers. Il faut aller plus loin. Une partie de la réponse se fait au niveau européen, ça va être un des enjeux de la campagne des européennes, mais il faut sans cesse regarder comment est-ce qu'on peut aller plus loin et être plus intense sur ces questions.
Et plus fort, comment on fait de votre point de vue, Jean-François Julliard, vous qui êtes avec nous, directeur général de Greenpeace. Bonjour Jean-François.
Bonjour.
Puisque vous avez porté plainte avec d'autres ONG, trois autres ONG, pour inaction politique en visant la France sur ses faiblesses écologiques. La justice peut-elle vous aider justement à aller plus loin pour engager une réflexion sur le respect de l'environnement ?
Ben, c'est ce qu'on souhaite, parce que c'est vrai qu'on a, avec les trois autres associations qui ont porté ce recours, on a essayé de, on a déposé ce recours hier au tribunal administratif de Paris, et ça fait maintenant plusieurs mois qu'on essaie de convaincre ce gouvernement d'aller plus loin et d'avoir des politiques publiques plus ambitieuses pour placer la France sur une bonne trajectoire, c'est-à-dire réduire les émissions de gaz à effet de serre qui sont plutôt en hausse aujourd'hui en France, donc ça veut dire que la trajectoire de la France n'est pas la bonne, et on estime que c'est aussi parce que ce gouvernement manque d'ambition, et que comme on n'a pas réussi visiblement à convaincre le gouvernement d'avoir une politique plus ambitieuse dans la matière, eh bien on en est quelque part contraint d'en passer, d'en appeler à la justice et d'espérer d'avoir une décision juridique qui va imposer au gouvernement d'avoir une rehausse de son ambition politique en la matière.
Sur quel dossier l'État s'est-il rendu pour vous coupable d'inaction, puisque vous évoquez notamment ces hausses de gaz d'émissions à effet de serre? Est-ce que vous incluez aussi, par exemple, le relâchement sur le glyphosate, sur les pesticides?
Non, nous on a trois éléments principaux dans ce recours juridique. Le premier, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans certains secteurs qui sont les plus émetteurs. C'est la question du transport.
Oui.
On ne va pas assez vite pour réduire la place de la voiture et du transport routier. La question du bâtiment, où on ne va pas assez vite pour rénover thermiquement les bâtiments qui consomment beaucoup d'énergie. On a aussi beaucoup de retard dans le développement des énergies renouvelables et beaucoup de retard dans la réduction de la consommation d'énergie et l'amélioration de l'efficacité énergétique. Donc dans tous ces domaines, en fait, la France n'est pas en mesure aujourd'hui d'atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés. Et j'insiste là-dessus parce que c'est pas nous, Greenpeace ou les autres associations, qui demandons à la France d'atteindre tel objectif. C'est la France qui s'est fixé des objectifs dans des lois, des normes nationales, européennes ou autres.
Complètement, qu'elle n'a pas respecté.
Voilà, et que la France n'est pas en mesure aujourd'hui d'atteindre ces objectifs, d'où cet appel à la justice administrative pour constater cette carence fautive de l'État.
Oui, et vous avez été soutenu par 2 millions de pétitionnaires pour une pétition intitulée « L'affaire du siècle ». Vous avez été signataire, vous,
bien
Anaïs
sûr.
Oui. Et « L'affaire du siècle », on est vraiment là-dedans. Est-ce qu'on le conçoit aussi du côté de la jeunesse que vous représentez, Gabriel Attal, « L'affaire du siècle » ?
Oui, mais moi, j'entends parfaitement à la fois que 2 millions de Français aient signé cette pétition. Et moi, j'entends évidemment l'action d'ONG comme Greenpeace, qui sont là pour alerter les consciences.
Oui. Est-ce que vous allez être le poil à gratter de Macron
pour nous pousser en permanence à aller plus loin? C'est ça le rôle de la société civile, organisée ou pas d'ailleurs, et des ONG. Moi, simplement, ce que j'aimerais, c'est qu'on regarde un peu ce qui a été fait depuis 2 ans. Et moi, encore une fois, j'entends que certains auraient souhaité qu'on aille plus vite, plus fort. Mais moi, je demande à ce que des personnes qui souhaitent ça arrivent à identifier une majorité qui a été aussi loin, qui a fait autant en 2 ans. En 2 ans après son arrivée au pouvoir. On est le premier pays au monde à avoir interdit la recherche et l'exploitation d'hydrocarbures sur son sol. On a pris une loi pour ça. On est le premier pays au monde.
Mmh.
On parle de réduire les émissions de gaz à effet de serre. On s'est engagé, le président de la République s'est engagé en 2022 à avoir fermé toutes les centrales à charbon qui sont sur notre territoire. L'Allemagne est en train de s'engager dans cette voie, sous la pression aussi des citoyens. Eux, ça ne sera pas avant 2035. Je crois qu'ils y arriveront.
Juste pour prendre un exemple, à Paris, on a encore des bus qui circulent au diesel et des camions poubelles au diesel qui empestent toute la ville.
Oui, mais c'est pour ça, quand on disait tout à l'heure que c'est une mobilisation collective et que le gouvernement seul ne peut pas tout. Les transports à Paris, qui est-ce qui s'en occupe? C'est la région de France et c'est la mairie de Paris.
On inclut tout le monde dans la réflexion.
Donc évidemment qu'il faut que ça soit un mouvement global. Mais nous, le gouvernement, on prend notre part. Je veux dire, avec la fermeture des centrales à charbon, avec la réduction du nucléaire dans le mix énergétique, j'entendais tout à l'heure ce qui était dit, on développe massivement les énergies renouvelables. On s'est engagé d'ici 10 ans à ce que ça représente, je crois, 35% de notre consommation d'énergie. Donc on investit à fond dans l'éolien, on investit à fond dans le chauffage thermique, j'ai oublié un peu le terme. On investit à fond dans tout ce qui est la biomasse, etc. Justement pour changer notre manière de produire de l'énergie.
Oui, et vous savez très
cette
bien
action,
que
elle est là. J'entends parfaitement que des ONG disent on aimerait que ça aille encore plus vite, parce que c'est leur rôle. J'entends parfaitement qu'ils mettent en place des actions comme saisine de justice qui est surtout un outil de communication pour faire parler du sujet.
Oui, mais peut-être mieux aussi de votre côté.
Ouais, moi je veux aussi qu'on reconnaisse quand même ce qui est fait. Parce que quand on regarde nos voisins européens, quand on regarde d'autres pays dans le monde, c'est absolument pas le même mouvement qui est engagé.
On fait une petite pause et je vous laisse répondre Anaïs ainsi que Jean-François. Pierre-Yves, au standard, Jean-Paul, vous êtes très nombreux, je vais vous donner la parole à tous. À tout de suite sur Europe 1.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Le tour de la question sur cette journée mondiale de grève à l'école pour le climat. Une mobilisation totalement inédite. Wendy Bouchard.
Grève de l'école, en effet, dans 1600 villes de France, 100 pays mobilisés, avec des jeunes à Paris notamment qui se réunissent place du Panthéon à 13h. Et je voudrais vous faire réagir, Anaïs, vous qui êtes étudiante en master de droit de l'environnement, à ce que vient de dire Gabriel Attal sur notre quotidien et la politique qualifiée parfois de petits pas du gouvernement et des gouvernements en matière de respect de l'environnement.
Je pense que toutes les actions que le gouvernement a faites depuis ces deux ans sont indispensables, sont très bien, sont très louables, mais en fait, il faut bien être conscient que le mouvement qui est aujourd'hui initié par la jeunesse, il ne va pas s'arrêter et qu'il est aussi destiné à mettre les politiques au pied du mur et à leur dire que nous, on sera toujours derrière à vous pousser à toujours continuer à agir dans ce sens-là. Alors c'est sûr, c'est très bien, mais il faut continuer à avancer et ne pas rester sur ces justifications, il faut rester dans l'action surtout. Et par rapport à la politique notamment environnementale de la Chine ou d'autres États, il faut savoir que la Chine fait figure de leader actuellement sur la scène internationale parce qu'elle reprend les codes de tous les pays du monde et progressivement elle est transcrite dans son droit national et notamment en matière d'environnement. Elle fait des choses absolument incroyables qui dépassent de très très loin la France. Donc aujourd'hui, si on veut être une première puissance mondiale économique, bien entendu, il y a un rôle à jouer avec l'Union européenne, mais ce rôle doit être fait au regard des puissances qui ne sont plus obsolètes. La Chine, aujourd'hui, elle fait vraiment des progrès incroyables en matière environnementale.
Exemple,
elle a fermé l'année dernière la plus grande déchetterie du monde. Par exemple, elle subventionne des scooters électriques dans toutes les villes. Une multitude d'initiatives de cette manière existe et continue à être mise en place. D'ailleurs, il me semble que c'était... je ne sais plus quel ministre avait dit en Chine en 2015 que la première puissance mondiale sera la première puissance environnementale.
Et écologique, absolument. Oui. Pierre-Yves, je voudrais que Pierre-Yves réagisse aussi parce que nous avons encore le ministre pendant quelques instants. Vous nous appelez du château d'Olonne au 39-21 sur ces considérations. Pierre-Yves, bonjour.
Oui, bonjour.
Et on parle de ce grand mouvement de la jeunesse pour le climat. Quel est votre sentiment?
Oui. Moi, je trouve que les jeunes ils donnent vraiment une très belle leçon à l'éducation nationale aujourd'hui. Ils font tout ce qu'on leur demande, en fait, dans l'enseignement. Ils sont organisés depuis des semaines. Ça fait des semaines qu'on en parle et qu'ils commencent à se mobiliser. Mmh. Quand je vois la qualité de leurs argumentations, c'est vraiment des modèles d'argumentation qu'ils sont en train de développer là en ce moment sur votre antenne et ailleurs. Et moi, je trouve qu'on peut vraiment les opposer... l'improvisation de l'éducation nationale en ce moment, je pense que je peux un peu vous en parler puisque je suis enseignant. Lundi, on a un ministre qui propose un débat. Quel manque d'anticipation par rapport aux jeunes qui ont anticipé depuis longtemps. Chez nous, par exemple, dans notre lycée, on est en période de bac blanc. Donc les jeunes, c'est difficile qu'ils se mobilisent. On n'aura pas donné les outils pour qu'ils arrivent à se mobiliser en période de bac blanc. C'est trop compliqué. Et puis, un débat de 16h à 18h. C'est ça qu'on leur propose. Pratiquement tous nos lycéens partent avec les transports scolaires dans notre établissement.
Oui, surtout le vendredi.
Les transports scolaires, c'est le vendredi à 17h. Mmh. Ils ne peuvent pas demander à leurs parents de venir les chercher à 18h. Leurs parents travaillent, leurs parents sont loin. Beaucoup sont internes. Donc, ce n'était pas jouable, un débat qui fonctionne aujourd'hui. Il suffisait d'anticiper, il suffisait de faire un débat de 8h à 10h ce matin, les jeunes auraient pu y participer. En plus, nous, on aurait pu faire de la prévention de 8h à 10h en leur expliquant, en leur apprenant à
bien
les manifester,
sûr.
En les mettant en garde, en leur proposant d'aller dans des manifestations déclarées en sous-préfecture, etc.
Oui, qui a bien compris votre argumentaire, vous répondre et savoir si vous pouvez vous engager à ce qu'il y ait à l'avenir, dans les prochaines semaines, avant la fin de la délivrance des contributions, d'ici la fin avril, d'autres débats organisés dans les lycées. Est-ce que vous pouvez vous engager sur le sujet, Gabriel Attal?
Alors, moi, c'est compliqué pour moi de prendre cette décision seule sans Jean-Michel Blanquer.
Oui, mais c'est le jeune ministre qui parle.
Voilà, c'est
important.
Ça. Moi, je suis auprès de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, qui a annoncé ces débats. En revanche, ce à quoi on s'est engagé, c'est à ce que le 5 avril, on réunisse le Conseil national de la vie lycéenne, c'est-à-dire des lycéens de la France entière qui ont été élus par leurs pairs, qui ont été élus par des lycéens pour les représenter, et qu'on les réunisse et qu'on fasse un débat avec eux sur cette question de l'écologie. Moi, à titre personnel, je pense que c'est toujours positif d'avoir des espaces de débat, de dialogue et de construction au service des jeunes, et que les jeunes ont besoin de ces espaces parce que aller dans des débats qui sont organisés par des moins jeunes qui s'expriment souvent très bien, qui ont souvent un vécu sur lequel ils s'appuient, c'est un peu intimidant.
Mais vous
pour
pouvez aller dire tout à l'heure à Jean-Michel Blanquer, ça râle dans la jeunesse parce qu'entre 16h et 18h, ils ne seront pas là, sauf qu'ils ont envie de participer à l'avenir. Aidez-le.
C'est pas le cas dans tous les
états. Vous voyez bien ce qu'il veut dire. Ça a été quand même un peu improvisé.
Un horaire, ça peut jamais convenir parfaitement à tout le monde. Il y a 4200 lycées en France. Ce qui est important.
En tout cas, un débat ne suffira pas.
Mais c'est certain. C'est pour ça qu'il faut qu'on continue à donner des espaces aux jeunes pour s'exprimer, je l'ai dit. Et s'il faut imaginer d'autres formes et d'autres espaces.
Oui, il faut.
Je pense que Jean-Michel Blanquer est prêt à le faire, tout à fait.
À tout de suite, on va donner la parole à Louis. Merci de votre appel, Pierre-Yves Louis, président de l'Union nationale lycéenne. Il nous appelle du Val-de-Marne et notre ami Jean-Paul, que je n'oublie pas, au Trop Top 21, tout de suite.
Nous parlons de cette journée de grève à l'école pour le climat. Encore quelques minutes, Wendy Bouchard.
Et j'ai honte parce que nous offrons du café et de l'eau à nos invités dans de jolis verres en plastique jetables, heureusement. Mais enfin, on n'est pas très vertueux encore de notre côté, Julie.
On ne doit pas les supprimer, ces gobelets.
Si, ça a été voté. Ça a été voté Gabriel dans la loi agriculture alimentation. On va, en 2021, il n'y aura plus de plastique à usage unique, de gobelets en plastique. Et c'est important qu'on s'engage sur ce sujet-là, ça mobilise beaucoup les jeunes.
Mais pourquoi 2021, pourquoi pas 2019?
Parce qu'il y a un enjeu de prévisibilité. Je m'explique. Moi, quand on a voté cette disposition, j'étais député. Et j'avais envie de l'interdire tout de suite et de le voter.
Oui, c'est ça.
Et puis à côté de moi, il y avait une collègue députée de la Nièvre qui m'a dit, mais, très bien, si on vote ça, il y a une usine qui ferme dans ma circonscription, 500 salariés qui se retrouvent sur le carreau au chômage demain.
Ah, à fabriquer des gobelets en plastique.
Et bah, oui,
il faut les soutenir dans la reconversion.
Il faut que l'industrie change de modèle. Et il faut qu'on permette de former, de reclasser des salariés qui, eux, n'ont pas forcément choisi ce modèle-là.
D'accord.
C'est leur boulot. Et peut-être que ce qui s'est trop passé ces dernières années, c'est d'avoir, dans l'incantation, dit il faut changer de modèle, mais sans avoir organisé les choses. Nous, là, ce qui est sûr, c'est que les industries le savent. En 2021, c'est fini le plastique à usage unique.
Oui.
Et donc maintenant, ils sont en train de s'organiser et nous, on est en train de les aider pour former et reclasser les salariés.
Il faut sortir du tout plastique. Ça, c'est un héritage des années 60-70. C'est vrai que c'était une matière, un matériau très, très facile, très pratique et bon marché. Mais,
léger.
Et léger. Mais remettons l'usage du verre en question. Le verre qui se recycle à l'envi et à l'infini. On voit un certain nombre de collectes de verre, d'ailleurs, revenir heureusement dans les circuits. Nous sommes avec Jean-Paul au 39-21. Bonjour Jean-Paul. Et je vais donner la parole à Louis. Vous êtes là, Jean-Paul? Oui. Jean-Paul et Louis d'abord, alors parce que Jean-Paul, on ne l'entend pas. Louis, président de l'Union nationale lycéenne, pour échanger avec Gabriel Attal. Bonjour, Louis.
Bon.
Vous m'entendez, Louis?
Oui, oui, je vous entends bien.
Ah, très bien, voilà. Louis, Louis qui vous allez évidemment participer, vous, à cette grande marche. Vous serez à 13h, place du Panthéon à Paris. Vous allez probablement donc croiser Gabriel Attal, qui est dans notre studio et qui vous rejoint. Quel message avez-vous à lui passer aujourd'hui sur l'antenne d'Europe 1?
Nous, là, on a entendu plein de choses. On a entendu les petits gestes du quotidien qu'on peut faire et qu'on intériorise aussi quand on est jeune, parce qu'on nous les répète et c'est une bonne chose. Aussi, ce qu'on peut faire, par exemple, arrêter les verres en plastique. Mais ce que l'on voit surtout, c'est qu'aujourd'hui, 70% de la production de gaz à effet de serre, c'est les 100 plus grosses compagnies du monde qui les produisent. Et celles-là, pour le moment, rien n'a été fait pour les en empêcher. Et j'entends qu'il y a une volonté d'effort de la part du gouvernement. Seulement, c'est pas parce qu'on va loin que tout s'arrangera. C'est une nécessité que juste réduire la production de gaz à effet de serre. Nos organisations, la plupart des organisations de jeunesse, ont signé un manifeste en demandant de réduire de 10% la production de gaz à effet de serre chaque année. Quelle va être la réponse du gouvernement sur ce manifeste? Parce qu'on n'attend pas seulement de dire on soutient la jeunesse, on attend surtout des mesures fortes.
Gabriel Attal.
Oui, je crois que c'est ce qu'on porte. Neutralité carbone en 2050, ça veut dire qu'on va diviser drastiquement.
C'est un petit peu tard, 2050, non?
Oui, mais enfin, c'est bien de fixer des objectifs, et puis, mais c'est bien aussi de certain de pouvoir les atteindre.
Oui, vous avez très bien. Si on dit 2050, en fait, on nous dira en 2025, c'est 2075, puis 2080.
Oui,
c'est terrible, quoi.
Bah, je crois pas parce que on montre qu'on fait tout pour y parvenir. Je veux dire, je l'ai dit, on va fermer l'ensemble des centrales à charbon en France avant 2022. Et d'autres pays comme l'Allemagne, eux, c'est 2035, 2040 avant d'y arriver. Nous, on les aura fermées. Les centrales à charbon aujourd'hui en France, les quatre, ça produit autant de gaz à effet de serre que 4 millions de voitures. Donc c'est quand même un geste important. Et ce n'est pas des centrales à charbon qui sont en fin de vie ou quoi que ce soit. Et c'est aussi des salariés qui sont dans ces centrales qu'il faut reclasser, qu'il faut former. Mais je veux dire, les actions, elles sont là. Et ça, c'est des engagements qu'avaient pris beaucoup de gouvernements avant et qui n'ont jamais été tenus. C'est des gouvernements, François Hollande, je vous donne un autre exemple, il est élu en disant « je vais fermer la centrale de Fessenheim ». Aujourd'hui, 7 ans plus tard, la centrale, elle est encore en route. Et c'est nous qui allons la fermer, alors qu'on ne s'y était pas spécialement engagé dans la campagne, mais parce qu'on prend nos responsabilités, parce qu'on agit sur cette question-là. Donc nous, on prend nos responsabilités et quand on fixe des objectifs, on les tient. Quand on fixe l'objectif, on se donne les moyens de les tenir parce que c'est ce qu'attendent les Français.
Eh bien, merci Gabriel Attal. On doit vous libérer puisqu'on a pris un peu de retard et qu'on a encore des appels au standard. On va prolonger un tout petit peu cette réflexion. Vous entendrez Charlie qui avait invectivé le président de la République. Vous entendrez la tribune et le message hier diffusé sur les réseaux sociaux de Nicolas Hulot. Anaïs, restez encore avec nous quelques instants. Jean-Paul est avec nous ainsi que Rémi. Un message à vous lire de Françoise au 39-21. Merci beaucoup Gabriel Attal.
Merci.
Et cette jeunesse mobilisée dans la rue. On attend que il y a d'autres débats à l'avenir et vous engagez à porter la parole auprès de M. Blanquer. À bientôt, la météo à suivre.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.